En décembre 2015, Antoine et ses collègues des stupes se rendent à Bordeaux après un signalement de leurs homologues américains. Une grosse livraison par les airs de cocaïne devrait avoir lieu dans la région. Grâce aux infos de la DEA, les stupes américains, Antoine et sa bande viennent de repérer les Colombiens à leur arrivée à Bordeaux.
Vous écoutez l'affaire B52, épisode 2.
Et du coup, comment vous réagissez quand vous les voyez ?
À ce moment-là, on les prend en filature, ils prennent des taxis, et on se met derrière eux, on les colle, jusqu'à arriver à leur hôtel. Là, ce qu'on remarque, c'est que leur boss, celui qu'on avait identifié comme un peu différent du cortège, se met dans un hôtel différent que le groupe. Donc il est tout seul dans son hôtel à part, et voilà. Ce qui va un peu compliquer les choses, parce qu'on est 10, bien que effectivement ça paraît assez nombreux, ils sont 5, et de là déjà on scinde les équipes, et il y en a qui restent dans un hôtel, il y en a qui restent dans les autres, et dès que ça bouge c'est assez compliqué, puisque en vérité une filature, on peut pas être seul derrière une voiture tout le temps, sinon on se ferait voir. Et à ce moment-là, si la police est derrière eux et se fait voir, il n'y a plus d'affaires.
Tu peux m'expliquer comment ça se passe, ces filatures-là, concrètement? C'est-à-dire que vous louez des voitures? Enfin, comment vous faites pour pas vous faire repérer?
Alors, nous, on a des voitures banalisées, avec toutes les grandes marques de voitures, que ce soit Audi, BM, Volkswagen, peu importe. Et on se met derrière eux, une filature où on rentre dans le circuit, dans la circulation, et on essaye de les avoir à vue sans les perdre. Donc, toujours, c'est le jeu du chat et la souris. Qui des fois a mené à des échecs, puisque il y a des moments de doute. Mais bon, on a toujours réussi à les retrouver un petit peu, parce qu'en vérité ils ont des habitudes très marquées, les Colombiens, notamment ceux-là. Ils aimaient bien aller manger au steakhouse midi et soir, et donc à chaque fois qu'on les perdait, ça nous arrivait 2-3 fois de récupérer sur internet l'adresse d'un steakhouse et on retrouvait leurs traces à l'intérieur, quoi.
Et vous faites quoi en attendant? Vous êtes en planque devant et...
On est en voiture devant, allongé, pour pas se faire voir non plus, mais bon, c'est assez difficile. Le problème d'une planque, c'est tous les besoins physiques aussi, hein. On peut pas trop sortir des voitures, on peut pas, voilà. Donc, je peux te dire que ça rapproche les gens.
Justement, ça rapproche les gens. C'est quoi l'ambiance avec ton équipe à ce moment-là? C'est qui les mecs qui bossent avec toi sur ce début d'affaires?
Les membres du groupe, on s'est tous connus à part avant dans des services différents. Et on s'est tous croisés au-delà d'affaires, que ce soit des affaires criminelles, des affaires de banditisme, de braquage ou de stup aussi. On s'est plus et on a réussi à tous s'introniser et à venir dans le même groupe. Donc on se connaît déjà assez bien à ce moment-là.
Et quand tu dis que ça rapproche les planques, tu peux me dire à quel point vous les suivez? Comment ça se passe? À quelle heure vous vous levez? C'est quoi votre journée type?
Comme on dit dans le jargon, on les lève et on les couche. Donc on y est très tôt le matin et on finit très très tard le soir. On n'hésite pas non plus à faire des 3-8, c'est-à-dire du 24 sur 24 aussi. Mais à 10, en vérité, ça va très vite. On est très vite fatigué.
Et c'est quoi l'ambiance alors, si vous êtes une bande de potes, comme tu dis?
Heureusement qu'on détend un peu l'atmosphère, il y a toujours un peu 2-3 blagues qui fusent. Gros problème qu'on a, c'est qu'en plus, il faut qu'on pallie aux problèmes familiaux. Et on a tous des vies, hein, on est tous pères de famille en plus. Ce qui est aussi une option importante pour nous et pour le recrutement, parce qu'il y a une certaine stabilité dans une vie d'homme marié. Et on veut pas de chien fou, un coureur de jupons, ou qui pourrait être un peu des électrons libres. Ça, on essaye d'éviter aussi. Donc il n'y en a pas, en tout cas, à ce moment-là. Mais le revers de la médaille, c'est que, comme on est tous mariés plus ou moins, ou en couple et avec des enfants... C'est assez insupportable de quitter le foyer longtemps. Surtout qu'on est parti pour 3 jours. Et que là, ça fait déjà quelques jours longs qu'on est là-bas et qu'on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on ne sait pas quand on va rentrer, réellement. J'avoue que des fois, elle m'appelle, je réponds pas. Voilà. Mais
Est-ce que t'es pris par le boulot?
Je suis pris par le boulot, je suis en filature. C'est dur d'avoir le téléphone et le retour à la vie réelle à ce moment-là est juste impossible. Mais du coup, il y a quand même une tension interne un peu houleuse entre nous. Pas entre nous, entre collègues, mais c'est quand même un peu pesant.
Comment se passe le premier rendez-vous? Il a lieu au bout d'une semaine et demie, c'est ça?
Le premier rendez-vous, alors il n'est pas annoncé. On n'a pas d'écoute, on n'a pas de procédure, On ne sait pas qui va venir. Donc ça peut venir à tout moment. Donc à ce moment-là, faut pas qu'on perde. Et on est là justement pour identifier les Français. Parce que l'intérêt dans une phase comme ça préparatoire, c'est de savoir qui se trame un peu derrière tout ça. Parce qu'effectivement, le cartel, il peut venir et y repartir. Et nous, ça nous donne quand même des indications sur l'équipe qui vient et qui se présente là. Quoi qu'il arrive, intéressante. Puisque ça veut dire que soit ils ont des contacts avec les cartels, à un moment ou à un autre, ça doit arriver. Ils sont quand même sur des phases préparatoires, ils ont quand même l'envie et l'intention de faire venir de la cam et de la cocaïne en grosse quantité. Donc que ce soit par ce cartel ou par un autre, ils vont y arriver. Donc nous, dans tous les cas, c'est un lanceur d'alerte, on sait que là-dessus, ça va travailler. Je pense que les gens ne comprennent pas forcément, et c'est ce que je vais un peu expliquer là, c'est qu'il n'y a pas de cam. On n'est pas là pour voir de la cam, de toute façon. Identifier les gens, c'est le but de la manœuvre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, les plaques de voiture sur lesquelles... avec lequel les gars français arrivent, déjà, ça nous donne des indications. On essaye de ramasser la tasse de café, par exemple, ou de récupérer des empreintes. Parce que normalement, c'est la police technique et scientifique qui fait ça, mais bon, là, ils sont pas avec nous, et on arrive à prendre un peu des écouvillons et récupérer un petit peu le maximum d'indices qu'un enquêteur peut rattraper.
Et donc là, avec ce premier rendez-vous-là, c'est un rendez-vous préparatoire, comme tu dis, il n'y a pas de date de livraison. C'est quoi le but de ce rendez-vous-là pour le cartel qu'il y a derrière, quoi?
Alors, nous, on ne sait pas ce qu'il y a. Ça se parle. Les gars se parlent, ils sont à table. Il reste 3-4 heures à discuter. Ça doit parler tarifs, ça doit parler sortie, ça doit parler montée.
Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, une sortie et une montée?
C'est une question de garantie, en fait, la sortie et la montée. C'est-à-dire que celui qui envoie la cam du pays du narco-État, il va être garant jusqu'à ce que la cam soit dans le moyen de transport, la route choisie. Que ce soit un conteneur, que ce soit un avion, ou que ce soit des voies terrestres. Jusqu'à l'arrivée. Si la cam se fait intercepter entre-temps, c'est eux qui doivent rembourser. La sortie, donc là, c'est le pays qui reçoit, notamment chez nous. Si ça capote à ce moment-là, c'est eux qui doivent rembourser. Pour la petite anecdote, le gros problème que font les Colombiens, ça reste quand même un cartel, c'est pas des gentils garçons. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent se faire rembourser au prix de la marchandise vendue en France. C'est-à-dire qu'en gros, ça oscille un kilo de cocaïne acheté en Colombie, c'est entre 1500, 2000 dollars à ce moment-là. Et il est vendu en France entre 23 et 28 000 euros. Et ils exigent de se faire rembourser de l'ordre de 23 à 28 000 euros. Ce qui met un peu la pression nous Français quand même.
Et comment le cartel, il a la preuve que, par exemple, il y a eu une saisie et que c'est bien la police qui a pris la cam à l'arrivée, à la sortie, et pas un mec qui s'est servi et qui s'est tiré avec?
Première option. Un mec se fait serrer avec, il y a une procédure judiciaire qui est ouverte. Et du coup, comme il se fait serrer par l'avocat, par la famille, on va savoir qu'il s'est fait interpeller. Donc ça, ça montre et ça démontre bien que c'est une interpellation. D'accord ? Donc la cam s'est fait saisir. Ok ? Tout est un problème de où est la drogue. Deuxième option. Quand les Colombiens envoient par exemple un conteneur avec 100 kilos de cocaïne, qu'il arrive au port du Havre, qu'il se fait saisir par les douaniers, quelle est la garantie pour eux de savoir que ça s'est vraiment fait saisir ? Donc à ce moment-là, ils exigent aux Français un article de journal.
Mais un article de journal dans quel sens?
Un article de journal de l'AFP, par exemple, avec marqué « Saisi aujourd'hui 200 kilos de cocaïne au port du Havre à tel jour, telle heure ». Ce qui dit que c'est bien leur cam qui a été saisie. Et le must pour eux, ça serait d'avoir la photo de la saisie avec leur logo. Comme ça, c'est QFD, il n'y a aucun problème.
Donc ils ont besoin de la presse pour être sûr que la cam a bien été saisie?
Tout à fait.
Ok.
Et ça, c'est une garantie incontournable pour eux. Le problème qu'il y a, c'est que quand ils ne l'ont pas, parce qu'au port du Havre, il n'y a pas tous les jours un article de presse pour les saisies, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'à un moment, ils se retournent sur les gars, parce que qui peut dire qu'effectivement, c'est peut-être pas l'équipe qui a récupéré la cam et qui dit non, on vient de se faire saisir la cam. Ils n'ont aucune preuve que c'est bien saisi.
Donc, et
ça peut être un vol. Et il y en a des vols en plus. Du coup, ils demandent des explications, il y a des représailles souvent. Et c'est souvent les dockers qui en pâtissent. Donc, on a énormément de dockers qui se retrouvent séquestrés et très lourdement violentés.
Et là, si on revient donc à Bordeaux, en décembre 2015, pour résumer, les Colombiens ont retrouvé des Français à Bordeaux pour parler d'une éventuelle livraison, on ne sait pas quand, pour voir s'il y a un business possible. Et comment ça se termine alors, cette mission qui dure 3 semaines?
Ouh là là, elle n'est pas encore terminée. Alors, au bout d'une semaine et demie à ce rendez-vous, à ce moment-là, nous, on nous apprend au siège, donc au centre à Nanterre, que y a un GoFast qui est en train de remonter d'Espagne avec une grosse quantité de cannabis et qui vont rapidement passer la frontière.
Alors que vous êtes à Bordeaux en train de bosser sur cette histoire de coke. Ouais.
Donc, du coup, on a des collègues de Nanterre qui arrivent et qui nous rejoignent. Donc là, on se retrouve beaucoup, hein. Dans le jargon, excuse-moi, mais c'est un vrai film de cul, en vrai. Donc on se retrouve, on est 30, à peu près, et donc du là, on laisse juste deux collègues en sonnette sur les deux hôtels qu'on a avec nos Colombiens, ce qui est hors de question qu'on les perde, parce qu'on est là pour ça. Puis surtout que ça fait, je te rappelle, quasi deux semaines qu'on est là, à les coller nuit et jour, sans les perdre, et hors de question, même pour nous, ne serait-ce par principe, qu'on les lâche, quoi. Mais bon, du coup, on nous appelle en renfort, on nous dit, vous venez, vous vous greffez aux équipes, là, pour l'interpellation. Donc là, bon, c'est un petit moment un peu rock'n'roll quand même, parce qu'on adore un peu, on est tous des grands enfants, mais on adore un peu jouer à ce niveau-là. Et donc on les reprend sur la 10, ils récupèrent la 63, ça passe par Irun, ça arrive à Bordeaux, nous on est là, c'est parfait, on les suit, on voit le cortège arriver, on se met derrière, on attend que ça se pose dans les aires d'autoroute, on a des stratégies plus ou moins connues, de toute façon on éclate toujours Louvoise en premier. On laisse travailler la porteuse, de toute façon là la cam dedans, donc voilà. Et là on se met derrière et dès que ça va sur une aire d'autoroute faire le plein, top action et on les sèche. Donc là nous on procède à l'interpellation, ça se passe très bien. Une fois qu'on les a interpellés, ils sont placés en garde à vue par les collègues et ils sont remontés à Nanterre avec les véhicules et donc tout le cortège remonte à Nanterre, sauf nous, notre groupe. On reste donc derrière nos Colombiens et on retourne sur notre point d'arrivée. Mais donc, on vient de faire un serrage, grosse montée en pression, on n'a pas trop dormi, on a des grosses valises sous les yeux. Nous, à ce moment-là, on arrive à l'hôtel à Bordeaux. On a encore chaud du go fast, on vient d'interpeller des gars qui sont sur une remontée, et comme je t'ai dit tout à l'heure, on avait laissé des collègues à l'hôtel, donc on les rejoint à l'hôtel. On y va assez tranquille, à peine arrivé à l'hôtel, mais c'est souvent comme ça. Hein. On voit une voiture espagnole qui arrive, nos Colombiens qui sortent de l'hôtel, et c'est parti. Donc de là, on les prend en filature, on veut surtout pas les perdre. Donc on se dit, ils vont aller où? On est à Bordeaux. Donc ils prennent l'autoroute à 10, ça descend direction le sud.
Tes valises, elles sont où?
Les valises, elles sont à l'hôtel. Bien joué. Donc ça descend direction le sud, les valises à l'hôtel, j'ai pas d'affaires. Donc là, on commence un peu à transpirer. Puis on descend, on traverse les Landes, on arrive, on passe Biarritz, Bayonne. Et là, ça descend, autoroute à 63, direction l'Espagne. De toute façon, ça pue l'Espagne, cette histoire. Hein. Voiture espagnole, bon. Hein, faut pas de grande déduction pour qu'on comprenne. Du coup, on passe la frontière espagnole, mais on se dit, bon, ça va peut-être s'arrêter à San Sébastien. Pas très loin, non. Direction Madrid. On essaie d'avoir une filature un peu rapprochée, parce que le véhicule n'est pas balisé, on n'a pas de moyens techniques pour les suivre, et si on les perd, c'est fini. Hein. Sachant en plus que quand même, on a la DEA qui est derrière, qui est quand même au courant de pas mal de choses, visiblement, et on ne veut pas non plus passer pour des mauvais, donc on fait les choses bien. Puis je te rappelle qu'on est le meilleur groupe de France, donc voilà. Et on descend, nous voilà descendre à Madrid. On arrive sur Madrid, moi je connais un peu le centre de Madrid, on y a travaillé un petit peu, mais j'avais pas trop fait les périphéries, je m'étais pas rendu compte à ce point-là, que là on va se retrouver dans une banlieue où il y a que des Colombiens. J'avais l'impression d'être à Medellin. Quand on arrive là-bas, mais c'est criant, il y a que un quartier où il y a que des Colombiens. C'est un peu comme si, je te dirais, des Espagnols qui se retrouvent à la cité des 4000 ou à la Courneuve et qui font une filature en pleine cité. Je pense que c'est un peu compliqué, je le souhaite à personne. Donc à ce moment-là, ils se sont arrêtés dans un appartement, dans un immeuble, une barre d'immeubles de cette banlieue. Et là, ça commence à être un peu long quand même pour nous. Je t'avouerai que là, mon seul rêve, c'était d'aller boire une cagna et de m'arrêter, quoi. Mais bon, fallait pas qu'on lâche, donc on n'a pas lâché.
L'affaire B52 est une série de Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbusch et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Amy Faconnier sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.